Question d'islam par Al Bensir. Dans la question épineuse, et c'est le cas de le dire, question singulière cette fois-ci, des problématiques islamiques dans notre pays et de par le monde, il y a ce que d'aucuns appellent une condensation multidimensionnelle de facteurs, de paramètres, de raisons qui expliquent, dans l'analyse des connaisseurs et des spécialistes, cette difficulté de la présence islamique en France. Et parmi ces paramètres, dans la grille de lecture globale, il y a des considérations théologiques, psychanalytiques, millénaristes, apocalyptiques, politiques, peut-être même les rapports internationaux et stratégiques, mais il y a aussi des considérations sociales dans une lecture sociologisante. Et aujourd'hui, c'est cette approche que nous privilégierons avec Abdelkader Raylan. Bonjour.
Bonjour.
Abdelkader Raylan est essayiste, romancier, écrivain, un honnête homme, selon la définition que nous nous en faisions collectivement, nous autres Européens, au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, avec cet homme qui se veut accompli, au moins un sportif de haut niveau, ayant pratiqué le noble art, la boxe, le milieu pugilistique, comme il le dit dans ses ouvrages, est aussi un milieu, une grande famille, mais aussi un intellectuel et, comme je l'ai dit, un écrivain. Abdelkader Raylan, votre ouvrage, vos ouvrages, mais en tout cas celui qui nous sert comme base de discussion aujourd'hui, est aussi un livre que les professeurs de français notamment utilisent comme support dans leurs cours pour aborder les questions identitaires. Comment ce choix était-il fait?
Alors en fait, c'est assez exceptionnel ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à être donc appelé quand En pleine face est sorti. Bon, j'ai eu la chance d'être nommé.
Le livre s'appelle.
Le livre En pleine face. J'ai été nommé pour le prix Beurre FM. Donc le livre avait été nommé. Donc il y avait une grande publicité autour du livre et le livre a revêtu vraiment, j'ai envie de dire, le sujet de l'identité justement parce que j'aborde énormément cette question dans ce roman. C'est un roman autobiographique, hein, bien évidemment. Et donc, j'ai eu la chance d'être appelé ici et là par des professeurs dans des lycées un peu partout en France qui souhaitaient me faire venir dans les lycées parce que les élèves avaient travaillé sur des textes du livre. Et voilà un petit peu les belles rencontres que j'ai pu avoir à travers ce roman. La plus belle des choses qui m'est arrivée, je crois, c'est le synopsis du livre, le quatrième de couverture, c'est donc c'est raciste, homophobe, antisémite, avec un étordu. Et donc il y a un collège. Dans un collège, les 100 élèves ont placardé leurs photos. Et avec chacun mettait 3 mots en disant des grandes oreilles, des cheveux en pétard, mais gentils. Enfin voilà. Et il y a eu 100 portraits comme ça qui étaient affichés dans un collège. Donc voilà un petit peu l'histoire, un petit peu de.
Alors pour les auditeurs, un nez tordu, pardonnez-moi l'expression, puisque c'est vous-même qui l'avez utilisé, c'est à double titre. D'abord, et on le verra tout à l'heure, vous avez eu un accident très tôt, très jeune, à l'âge de 7 ans, je crois, à cause de ce fameux mouton qu'on doit immoler pour la fête du sacrifice et qu'on n'appelle surtout pas la fête du mouton, puisque le pauvre mouton n'est pas à la fête, et ce n'est pas sa fête, et puis les musulmans ne fêtent pas de mouton, mais on l'appelle ainsi, si on l'appelle ainsi, c'est davantage du folklore qu'autre chose. Donc c'est ce mouton qui a fait une sorte de ruade comme ça contre vous ou sur vous. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi ne pas être boxeur? Et ça a arrangé les choses ou ça les a aggravées, ça vous allez nous le dire. C'est son portrait dans un même collège.
Exactement. Oui. 100 portraits d'élèves dans un même collège et tous les élèves ont joué le jeu, donc c'était assez impressionnant et c'était aussi quelque part aussi pour lutter contre un peu les brimades que peuvent avoir des élèves, hein. Certains élèves ont des grandes oreilles donc on se moque d'eux, comme moi on a pu se moquer de moi quand j'étais plus jeune à cause de mon nez et donc c'était aussi intéressant. C'est-à-dire que ce que m'a dit une professeure, elle m'a dit que mon roman pouvait aborder beaucoup de sujets en fait. Il abordait beaucoup de sujets, le rejet de l'autre, sur la religion hein, bien évidemment, mais aussi la tradition qu'on peut avoir en tout cas dans je n'aime pas dire la communauté musulmane parce que moi je me reconnais dans la communauté nationale, mais dans la communauté que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune parce que je me considérais avant tout algérien plus que français bien évidemment. Mais on pourra traiter de cette question aussi pendant l'émission. Mais voilà, en tout cas, le livre, c'est vrai, aborde beaucoup de sujets et c'est ce qui en fait sa force, j'ai envie de dire.
Alors Abdelkader Elhan, nous verrons tout au long de l'émission une saga en réalité. On dit souvent que, curieusement, une composante de la nation, on n'arrive pas à arrêter l'énumération de ces générations. On a même osé parler de cinquième génération. En tout cas, ce que vous racontez, c'est que c'est une famille, avec votre père. On est au milieu des années 50 du siècle écoulé, plus exactement en 1956. Votre père vient s'installer, et en plus par inadvertance, parce qu'il devait s'arrêter à Paris, venant de Marseille.
Exactement.
Et il se retrouve, parce qu'il n'est pas descendu du train, plutôt à Douai.
Tout à fait.
Et c'est là où sa vie d'homme adulte et d'homme marié, de fondateur d'une famille commence. Vous êtes donc la deuxième génération.
Oui.
Et puis, vous êtes vous-même père de famille. Donc, on est en troisième génération. Ma question, c'est que vous mettez en exergue, effectivement, ce qui relève d'une tradition. Et parfois, la religion islamique en est tout à fait innocente. Et puis, on habille par la caution du religieux cette tradition qui est avant tout une tradition maghrébine.
C'est exactement ça. Je prends pour exemple ma sœur. Une de mes sœurs a eu son permis en 1978. Et je dis dans mon livre que c'était un modèle d'émancipation à l'époque. C'était une des premières filles maghrébines à obtenir ce fameux pass pour mon père n'avait même pas...
Dans votre cité.
Dans la cité, bien évidemment. Et mon père n'avait même pas le permis lui-même. Donc ma sœur était très importante dans la famille parce que c'est elle ensuite qui nous emmenait pour faire les courses. Et en revanche, c'est vrai que le fait que mon père puisse laisser la possibilité à ma sœur de passer le permis et de l'obtenir, ça a créé vraiment des relents auprès des autres papas d'agressivité vis-à-vis de mon père, à savoir pour reprendre l'expression, mon père m'avait raconté, les vieux de la cité lui disaient texto mais tu vas ouvrir les yeux à nos filles et donc voilà et tu fais une erreur en permettant à ta fille de passer le permis. Ensuite, il lui a acheté la voiture. Mon père est resté droit. Il était quand même respecté dans la cité. Mais voilà. Mais par exemple, c'est un exemple très qui est frappant et qui explique comment les gens pouvaient croire que c'était religieux. Il fallait que la femme reste à la maison. D'ailleurs. Pour l'anecdote, quand j'ai écrit ce roman, j'ai eu beaucoup de courriers. Hein, j'ai reçu beaucoup de courriers dans lesquels on m'assassinait parce que justement j'avais osé dire que l'émancipation pour une femme c'était de passer le permis, c'était d'aller travailler parce que elle était une des premières personnes à aller travailler dans une usine d'hommes. Et j'ai envie de dire, les gens qui m'ont écrit m'ont dit que l'émancipation pour une femme musulmane, c'était de rester à la maison, de s'occuper de son mari et de sa religion. Voilà.
C'est curieux qu'il y ait une telle régression, parce qu'on ne voyait pas des choses comme ça dans ce qu'on appelle les sociétés majoritairement musulmanes. Mais là, il y avait, et c'est aussi une question, un condensé de, nous avons appelé ça d'habitude ou de tradition, dans certains cas folkloriques, dans d'autres, enraciné je ne sais dans quel terroir et qui cherchait toujours la caution du religieux.
Exactement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je ne connaissais absolument rien de la religion. Tout ce que j'avais appris de la religion, c'est ce qu'on m'en avait dit. Je prends un exemple dans le livre, un copain de la cité dont la famille était plutôt très pratiquante m'avait dit qu'il était interdit de rentrer dans une église. Eh bien, j'ai pris pour acte ce qu'il m'avait dit, je ne rentrais pas dans une église parce que je croyais que c'était prohibé par la religion. Et des choses comme ça, il y en avait beaucoup où on racontait beaucoup de choses. Par exemple, encore un exemple qui malheureusement perdure, c'est très simple, mais faire lire le Coran. Donc on pensait à l'époque qu'il fallait faire les ablutions avant de lire le Coran. Et par simple raison, juste la raison m'a permis de comprendre que c'était une erreur, un mensonge, parce que quand j'écoutais dans ma voiture le Coran avec une cassette, bien évidemment que je ne faisais pas mes ablutions. Quand ensuite sont arrivés les CD, mais je ne faisais pas mes ablutions. Donc c'est la raison qui m'a juste expliqué que j'étais dans l'erreur. Mais c'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui la grosse difficulté qu'on avait à l'époque et qu'on a aujourd'hui encore, c'est la méconnaissance de notre religion.
Oui, j'anticipe peut-être, mais à un moment donné, on va voir qu'on va basculer. Ce sont plutôt toute une jeunesse, même s'il y a les aînés, puis les copains, comme vous dites, ceux de votre âge, qui vont basculer des petits méfaits, de larcin. Vous-même, vous utilisez les termes de racaille, à une forme de religiosité aliénante, voire une sorte d'escroquerie morale et intellectuelle de la part de quelqu'un qui s'est autoproclamé Mahdi, le guide, en tout cas celui qui anticipe la venue du Christ, sa parousie, son retour. Et celui-ci disait à des gens qu'il doit en principe respecter, pourquoi est-ce que vous fumez, pourquoi est-ce que vous allez jouer au PMU? Aussi bien la cigarette et a fortiori les jeux de hasard sont prohibés par notre religion, et c'est le prophète qui nous l'a dit, et là ils lui ont donné plutôt une raclée.
C'est ça, c'est les donc ce Mahdi, hein, qui a véritablement existé, hein, avait donc converti toute la cité, voire plusieurs quartiers, parce qu'il avait beaucoup de charisme. Hein. Je crois que c'est ce que je retiendrai de lui, c'était son charisme. Par chance, j'ai pas été happé par ce charisme, et j'ai pas été happé par son chant de sirène. Et en revanche, beaucoup de personnes sont tombées dans son escroquerie, parce que c'était une escroquerie à mon avis. Et donc c'est vrai que je le raconte, hein, la cité dans la cité on a vu fleurir des foulards dans les têtes des filles, on a vu donc les garçons donc prier. Mon frère lui-même à la maison avait retiré toutes les photos des murs parce que pour lui c'était interdit,
et donc c'était interdit de reproduire ne serait-ce que sous forme de photos la création divine.
Exactement. Et donc on a vu ça un peu arriver dans la cité, et c'est vrai que c'était difficile de résister. On était 4-5 à résister, mais c'était vraiment difficile parce qu'on était considérés comme des satans, comme des jeunes qui justement voulaient refuser de voir la réalité, refuser de voir l'aspect divin de ce Mahdi, de ce soi-disant Mahdi. Et en fait, l'ironie du sort, c'est que les vieux de la cité ne sont pas tombés justement dans son piège, et c'est eux qui lui ont mis une raclée, donc physiquement, hein, et qui l'ont chassé de la cité. Et voilà un petit peu comment son petit califat, si je caricature, a cessé grâce justement à l'intervention de quatre vieux de la cité qui ont pris justement à bras le corps ce souci, qui n'ont pas accepté justement que ce soi-disant Mahdi leur donne la leçon. Mon père m'avait dit d'ailleurs à cette époque, c'était assez intéressant, il m'avait dit, vous savez lire, vous savez écrire, et j'ai l'impression que votre religion, elle est moins généreuse, elle est moins facile que la nôtre. Donc c'était assez marrant ce qu'il m'avait dit mon père. Je pense que voilà, mon père savait pas lire ni écrire. Tout ce qu'il a appris de la religion, c'était de l'oral, bien sûr, la religion musulmane est une religion de l'oralité aussi, hein. Mais tout ce qu'il a appris par d'autres hommes, parce que c'était les hommes qui transmettaient malheureusement les messages divins, entre guillemets, mais quand même, mon père avait une pratique religieuse qui était très simple, Et surtout, il n'a jamais demandé à mes sœurs de porter le foulard. Il n'a jamais eu d'exigence vis-à-vis de la religion avec ses enfants. Et ça, je veux dire que c'était vraiment une de ses plus grandes qualités.
Oui. Alors, au fur et à mesure que vous parliez, je voulais réagir, mais je vous ai laissé développer tout cela. Et ma réaction est en quatre points. C'est vrai que la religion est transmise le plus souvent par des hommes. Il y a eu des cas de femmes à travers l'histoire qu'on appelle les femmes traditionnistes, c'est-à-dire qui rapportent la tradition. Le cas le plus emblématique, c'est celui d'Ibn Arabi, ce grand mystique 1165-1240, qui a reçu sa formation de deux femmes, et dont une certaine Fatima. Il y en a d'autres qu'on pourra citer, et ce n'est pas le lieu maintenant. Deuxième point, c'est l'explication davantage pour nos amis auditeurs du Mahdi. Mahdi, étymologiquement, c'est celui qui est bien guidé, le guidé, et qui est celui qui est attendu comme un peu précurseur du retour du Christ. C'est dans la tradition religieuse islamique. Troisième réaction, c'est que votre père et ceux de sa génération avaient une approche de la religion, une approche généreuse, et aussi celle du bon sens. Et quatrième point, même si nous ne nous sommes pas pour encourager la violence, peut-être que ce pseudo-Mahdi, en tout cas cet escroc, il fallait pour lui qu'il y eût cette raclée pour être chassé de la cité, arrêter ses méfaits.
Oui, je pense que autrement, je vois pas comment il aurait pu arrêter puisqu'il était dans sa lancée. Ce qui est assez intéressant, j'ai fait beaucoup de dédicaces un peu partout en France avec ce livre et j'ai appris que des Mahdi, il en avait eu beaucoup, dans beaucoup de cités malheureusement, que cet escroc n'a pas existé que dans ma cité, mais il a existé dans beaucoup d'autres cités. Et je pense, voilà, on dit souvent que la nature a horreur du vide et qu'un vide existait en tout cas par la méconnaissance de la religion, encore une fois. Et donc c'était assez marrant parce que j'ai pu échanger sur ce sujet là, plus précisément du livre, avec beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans beaucoup de quartiers de France. Ce qui était aussi marrant par rapport à ce Mahdi, c'est que mais il a fait beaucoup de mal après son départ, beaucoup de jeunes qui étaient croyants, hein, qui faisaient la prière, sont devenus des toxicomanes.
Ah, et donc, alors là, c'est une véritable question. Il y a cette affaire d'arnaque ou d'escroquerie, et elle est avérée, réelle. Lui-même peut-être a dû sévir dans d'autres endroits et d'autres, simplement parce qu'ils n'ont pas pu faire autre chose, parce que c'est une forme de gagne-pain. C'est aussi, c'est toujours grisant d'avoir un ascendant moral sur des jeunes gens, etc. Mais il y a eu aussi une offensive dite fondamentaliste, peut-être celle des frères musulmans, peut-être celle d'autres activistes qui ont emboîté le pas ou à côté ou en parallèle, ou c'est, comment expliquez-vous, c'est parce qu'effectivement il y avait un vide ou on a remplacé le souci de ne pas tomber dans des pratiques addictives, l'alcool, la drogue, voire dans certains cas la prostitution, la délinquance ou le banditisme, par une autre approche qui est celle du rigorisme religieux.
Oui, en fait, ce que j'ai pu voir, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, et puisque je vois aujourd'hui encore dans beaucoup de cités, puisque je fais beaucoup d'interventions dans les cités, dans les lycées, c'est que malheureusement, parfois, vous savez, le rejet implique souvent le repli. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de jeunes être dans le rejet, hein, se sentir en tout cas rejetés. La seule voie qu'ils ont trouvée, c'est le repli. Alors souvent, d'ailleurs, ce phénomène existe aussi pour des jeunes français sur plusieurs générations qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et j'ai vu des jeunes choisir le repli identitaire, choisir le repli religieux, choisir le repli communautaire. Et je pense que ce qui s'est passé donc à cette époque, c'était à mon avis le choix du repli religieux, parce que d'abord c'était le plus simple, parce que aussi il faut se rappeler que moi je parle dans les années 80, il y avait je parle aussi de géopolitique, hein, il y avait donc le massacre de Sabra et Shatila dans les années en 82 de mémoire, qui avait eu pour incidence un relan d'antisémitisme dans beaucoup de quartiers, et donc j'ai envie de dire que La religion faisait de nous, qu'on soit tunisien, algérien, marocain, on se retrouvait tous à travers la religion, et c'est ce qui a fait aussi que, à un moment donné, beaucoup de jeunes ont sombré dans l'islam radical.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Avec le romancier, écrivain, essayiste Abdelkader Raylan, nous parlons aujourd'hui de son roman En pleine face. C'est un ouvrage qui, je le répète, sert comme base de discussion, d'études, d'analyse et de travail dans les établissements scolaires à propos de ces questions d'identité et, en l'espèce, en ce qui concerne certains quartiers dits difficiles et certaines régions, certaines cités de France. La question identitaire est épuisée dans les questions religieuses uniquement. Abdelkader Raylan, vous avez dit que c'est le rejet qui pousse à ce repli. D'aucuns, et nous avons même entendu un ancien Premier ministre dire « il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser ». Vous pensez que, et sans vouloir excuser, que la question du rejet a été fondamentale ou cruciale dans ce repli et dans le recours à la religion pour se serrer comme ça frileusement les coudes.
Oui, je le pense très très sincèrement. Je pense que je le dis bien dans le roman. On vivait le racisme. D'ailleurs, on pratiquait également le racisme. Hein, je le dis. Je sais, quand j'étais plus jeune, j'étais raciste et j'étais naturellement. Voilà, c'est aussi ce qui fait un peu peur. Et ce racisme qu'on vivait, c'était un racisme un peu du "je te pousse, tu me repousses". Voilà, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les Français sur plusieurs générations ne nous aimaient pas, et donc nous, naturellement, on avait aussi donc de l'hostilité à leur égard. Et je crois que ce qui faisait consensus entre nous tous, hein, c'était justement qu'on était des musulmans. Et on se revendiquait beaucoup, encore plus comme musulmans que algériens ou marocains. Voilà, c'était un peu ce qui nous liait les uns et les autres, sachant quand même qu'on avait une méconnaissance totale de la religion aussi. C'était, je pense que, simplement le Coran. Moi, j'ai appris, je crois que j'avais 30 ans, que le Coran avait été finalisé dans sa version papier 15 ans après la mort du prophète. Et nous, quand j'étais plus jeune, on pensait tous que le Coran était tombé du ciel, quoi. Donc voilà, donc il y avait aussi ça, cette méconnaissance de la religion qui a je pense suscité aussi un peu ce radicalisme que certains, en tout cas dans lequel certains sont entrés.
Oui, Abdelkader Raylan, vous dites avec beaucoup de lucidité, beaucoup de froideur d'esprit. D'abord, vos états d'âme à vous, comment vous étiez, qui vous traversaient. Vous ne pouviez pas apparaître comme romantique, ni sensible, ni faire part de vos doutes, de vos questionnements, qui sont tout à fait naturels, et notamment pour un jeune adolescent, pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui a fléchi et qui a failli peut-être même devant cette injonction à la solidarité. Et il y a, je cite comme ça de mémoire, cet épisode lorsque vous alliez dans une salle de cinéma, d'ailleurs en n'ayant acheté qu'un seul ticket, puis un seul billet, puis les autres entrent par l'issue de secours. Et pour ne pas rater le film, il se trouve, tout en implorant l'indulgence de nos auditeurs, que quelqu'un pouvait uriner pour ne pas rater le film et ne pas aller aux toilettes. Et vous déploriez ça, vous le condamniez, et vous ne trouviez pas ça normal. Et vous pensez que c'était ce qui a encore aggravé ce sentiment aussi de rejet.
Oui, tout à fait. Je pense que on avait un comportement déplorable. Vraiment, quand on était à l'extérieur, on était en groupe, en troupe, Et c'est vrai que on avait des mines patibulaires, on avait des comportements voilà dont on devrait rougir, mais ce n'était pas le cas. Et au contraire, je crois que et alors la lâcheté, ma lâcheté en tout cas de l'époque, c'est que je n'étais pas forcément à l'aise avec ces comportements, mais pour autant, je me laissais entraîner par le groupe. Parce qu'il n'y avait rien de pire que de se sentir exclu, et puis l'exclusion, ça a aussi des conséquences. Donc, courage, fuyons un petit peu, c'était un peu ma logique de l'époque. Hein. Mais c'est sûr que on avait donc même ce comportement. Je crois qu'il traduisait aussi quelque part un mal-être, probablement un mal-être que l'on avait dans la société dans laquelle on vivait. Hein. On avait aussi, il faut partir d'un principe, c'est qu'on voyait aussi nos grands frères être au chômage, vivre de petits larcins, ce qui fait qu'à un moment donné, je crois que on avait peu d'espoir en l'avenir. J'ai une anecdote en tête. Un jour, un jeune de la cité, puis il y avait des élus qui étaient passés, qui avaient demandé à un jeune de la cité, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Et mon copain avait dit, je veux être voleur d'avion. Voilà. Alors, on ne comprenait pas qu'il voulait il voulait être pilote en fait. Voilà, il voulait pas être l'Arsène Lupin des voleurs d'avion, mais plutôt être pilote. Et on s'est moqué de lui. On s'est moqué de lui parce que justement, c'était juste pas possible. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce gars en question, on l'appelle le pilote. C'est-à-dire que c'est resté, mais on pouvait absolument pas prendre même quelques secondes au sérieux sa réponse.
Alors ceci me renvoie, parce que j'allais passer à une autre anecdote du même ordre que la salle du cinéma, je la dirai tout à l'heure parce qu'elle est importante, c'est à propos de ce jeune Brahim soupçonné, c'était même pas sûr, d'orientation sexuelle, homosexuelle, et qui a eu la raclée de sa vie, on y reviendra. Mais vous relatez, en tout cas le héros, mais qui se trouve être vous, puisque c'est vous qui êtes narrateur, même si vous avez changé de nom et de prénom dans le roman, c'est lorsque votre père et vous-même étiez allés voir la professeure principale, qui se trouve être aussi professeure de musique, et la différence de traitement entre un de vos camarades de classe, comment il a été reçu avec son père, et avec le vôtre.
Tout à fait, c'est vrai que moi j'étais plutôt un bon élève par rapport à mon camarade qui était un Français sur plusieurs générations.
Et l'appellation français sur plusieurs générations, pour éviter l'appellation de Français de souche, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la souche
exactement
commence. Et vous-même étiez Français, mais qu'est-ce que c'est qu'aussi Français de fraîche date?
Exactement.
Donc le vocabulaire est très piégé et il est important.
Et donc c'est vrai que mon père avait, donc quand est arrivé notre tour, la professeure s'exprimait avec les mains. Et ça m'avait dérangé en fait, hein. Et j'ai trouvé, enfin en tout cas, ce qui m'est apparu, c'était un petit peu un relent de racisme qui était complètement faux. Hein. Mais c'est comme ça que je l'avais vécu à l'époque. Et pour la petite histoire, j'étais venu donc à Douai dans ma ville pour faire une dédicace, et la professeure est venue en question. Donc elle a acheté le livre et elle m'a appelé quelques jours plus tard en me disant qu'elle était arrêtée à la page parce qu'elle avait mal vécu ce que j'avais écrit. Et en fait, elle m'avait expliqué tout simplement que mon père ne sachant pas parler français, c'est moi qui faisais la traduction. Et ça l'avait dérangé, en fait, voilà. Ça l'avait profondément dérangé. C'est pour ça qu'elle avait eu son comportement vis-à-vis de nous. Mais c'était absolument, ça n'avait rien à voir avec nos origines ou, c'était simplement que le fait que je fasse la traduction lui posait problème.
Et c'est-à-dire aussi, alors, ce n'est pas dans votre ouvrage, mais je l'ai cru entendre et même lire, que lorsque arrive le moment de l'orientation, on disait, mais pourquoi va-t-il faire des études longues en allant dans l'enseignement général? C'est bien qu'il aille faire un petit CAP, comme ça il intégrera le monde du travail très tôt.
En fait, c'est marrant parce que, par exemple, dans le lycée à Douai, il y avait une partie donc enseignement général et une partie enseignement secondaire. Et ceux de l'enseignement général, secondaire, professionnel, ceux de l'enseignement général appelaient les élèves de l'enseignement professionnel les animaux. Voyez, donc c'est dire un peu. Et dans les animaux, il y avait malheureusement beaucoup de jeunes issus de l'immigration, des immigrations qu'a traversé notre pays. Et c'est vrai que globalement, on était plutôt orienté, j'ai envie de dire, vers le professionnel. Parce que, alors à part quelques élèves, très très bons élèves, mais lorsqu'on était un élève moyen, on avait tendance à être orienté vers l'enseignement professionnel. Ce qui n'était pas forcément le cas pour les Français dits
sur plusieurs générations. Oui. Alors revenons un peu à ce qui se passe dans cette cité qui était quasiment une grande famille, ou en tout cas une citadelle à elle seule, qui avait ses codes, ses règles, sa façon de vivre. Et la chose la plus inacceptable était cette tendance d'orientation sexuelle qui était l'homosexualité. Et donc ce Brahim, je ne sais pas s'il l'était ou pas, nous ne le savons pas, mais en tout cas on l'a soupçonné de par un comportement un peu tendancieux et il a été rossé.
C'est ça. Cet événement m'avait marqué parce que justement, il n'avait rien fait de mal. Effectivement, c'était justement le soupçonner d'être homosexuel. Et c'est sûr que j'ai envie de dire, j'explique dans le livre qu'il y a une hiérarchie des gens qui sont bannis de justement de la cité. Et l'homosexuel, c'est celui qui vient en premier dans la liste.
À être banni. Ou le dernier dans la désapprobation.
Voilà, exactement. Et donc c'est effectivement, donc ce jeune homme Brahim, tout le monde avait bon, il était un peu efféminé, hein, pour parler assez directement, il était efféminé, et donc beaucoup de jeunes de la cité le considéraient comme un homosexuel, et il n'avait bien évidemment pas le droit de citer dans la cité, et encore moins de nous toucher. Et donc, il était rejeté, hein, il vivait donc un rejet encore plus fort que celui que nous vivions nous-mêmes. Et surtout, je crois qu'il se prenait... Alors là, je raconte une raclée, mais il en a pris beaucoup. Et je crois qu'il en est resté marqué, parce que le temps nous a montré effectivement qu'il était homosexuel. Et il en a vraiment... Aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, il vit difficilement parce que je crois qu'il n'y a rien de pire qu'être homosexuel dans une cité. D'ailleurs, il y a eu un livre de... Alors, Brahim Haït... j'ai oublié son nom, donc un homo dans la cité, et il raconte exactement l'enfer que peuvent vivre les homosexuels quand ils sont...
Ils ont le même prénom.
Oui, ils ont le même prénom, et c'était ironique.
Et le Brahim dont vous parlez est resté toujours là-bas, ou il a dû partir?
Oui, non, il est resté toujours là-bas, et bon, maintenant la cité a énormément changé, hein, et donc il est resté, il a tenu bon. Malheureusement, bon, bien sûr, il vit seul. Hein, aujourd'hui, il vit seul et il n'a pas pu construire de famille parce que, bien évidemment, si d'aventure il avait eu l'outrage de vivre avec un homme, ça aurait été extrêmement mal vécu à l'époque, voire ça aurait pu être dangereux pour sa personne.
Oui. Passons, si vous voulez bien, maintenant à votre passion. Comment les choses ont commencé. Vous parlez aussi alors j'ai dit en introduction, le milieu pugilistique était aussi pour vous presque comme une seconde famille.
Oui.
Et notamment avec cet entraîneur.
Tout à fait.
Kid René.
Voilà, exactement. Alors son vrai nom, c'était Kid Roger. Oui. Voilà. Et effectivement, ce vieil homme a véritablement changé ma vie. Et je dis toujours que la boxe a été vraiment une merveilleuse rencontre dans ma vie, parce que d'une part, elle m'a permis justement de sortir du racisme, de l'antisémitisme et de l'homophobie. Quand je suis arrivé dans une salle de boxe, il y avait donc des personnes, donc les Dimitri, donc qui s'appelle véritablement en vérité Yvon Tatula,
il y avait Yvon Tatula, il y a Lorenzo aussi.
Il y a Lorenzo qui s'appelait Cecilio, toutes ces personnes, en fait, je suis arrivé, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas maghrébines. Et ça m'a changé, parce que tous mes copains c'était des Farid, des Rachid, et là en l'occurrence je rencontrais d'autres personnes, et ça m'a permis justement d'ouvrir mon esprit ces boxeurs hein, dont on croit souvent qu'ils ont tout dans les bras et rien dans la tête, m'ont apporté énormément. Ils avaient une richesse intellectuelle et une richesse de vie qu'ils m'ont d'ailleurs fait partager. J'ai vraiment commencé à changer. J'ai vraiment commencé à prendre conscience du monde qui m'entourait en dehors de la cité grâce à ces boxeurs-là qui m'accompagnaient.
Alors, vous parlez des périodes d'entraînement, vous parlez de votre premier combat, de comment vous avez même pu acquérir le maillot, la tenue de ce premier combat. Les choses n'étaient pas faciles. Et si vous pouviez au moins raconter à nos amis auditeurs ce combat qui a été inaugural en réalité de votre carrière de boxeur.
Oui, c'est ce qui était assez marrant dans mon premier combat, effectivement, c'est que alors de mémoire, je crois que c'était à Roubaix, ça se passait à Roubaix, donc je suis arrivé à Roubaix, effectivement, c'est la première fois que j'allais à Roubaix, et j'ai vu à Roubaix plus d'Arabes que j'en avais vu déjà dans ma cité, donc c'était assez frappant.
Pardon, Abdelkader Elan, oui. Vous dites aussi dans le roman que vous étiez surpris de voir leur tenue, que ils étaient plus à l'aise en quelque sorte d'agir dans cette grande ville et de vivre comme ils le font, alors que vous étiez recroquevillé, enfin un vos pluriel collectif, uniquement dans votre cité. Frais marais.
Ouais. Exactement. En fait, ce qui était marrant, c'est que bon, nous, dans la cité, on pouvait se promener en djellaba, voilà, mais que dans la cité. Alors que quand je suis arrivé à Roubaix, c'était dans le centre-ville et je voyais des djellaba, et c'était assez frappant. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau et j'aurais pas cru voir ça en France, donc ça m'avait frappé. Et donc, bien évidemment, ce premier combat qui était le premier d'une longue série, hein, d'abord, j'avais gagné de mémoire avant la limite, hein, donc, et je me souviens...
Par un KO, et vous voyez les cheveux de votre adversaire du jour.
C'est exactement ça, et j'en garde encore, j'ai fait beaucoup de combats, mais le premier, en tout cas, je m'en rappellerai toute ma vie, et l'adversaire s'appelait Chambriant Antoine d'ailleurs, ici peut-être qu'il va m'entendre, mais et j'ai pris conscience aussi de la dureté de ce sport, de voir comment on pouvait faire mal à ce point, et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et en même temps, j'étais euphorique hein, parce que j'avais bien évidemment gagné, mais il y avait aussi ce côté-là un peu en me disant que j'aurais pu être à sa place et j'aurais pu tomber. Voilà. La boxe, c'est un sport merveilleux, vraiment, parce que, comme on le dit, c'est le noble art, c'est l'école de la vie. C'est un sport difficile aussi, hein, parce qu'il demande beaucoup de, il demande d'énormes sacrifices. Mais globalement, je crois qu'il m'a enseigné beaucoup de choses, notamment la rigueur dans tout ce que je peux être amené à faire.
Alors, de la rigueur, mais aussi et surtout de la rectitude morale, une éthique, une hygiène de vie, une philosophie.
Oui, et cette philosophie aussi, c'est aussi Kid Roger qui me l'a enseigné. Hein. C'est-à-dire que donc c'est bien évidemment donner des coups sans en recevoir. C'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire dans la vie, hein, bien évidemment, sans vouloir donner des coups, mais en avancer sans écraser les autres. Ça, c'est important. Ce qui était assez intéressant avec Kid Roger, c'est que il avait une double exigence. Donc, bien évidemment, l'entraînement, mais aussi le travail à l'école, et ça, c'est extrêmement important. Il me demandait de ramener mes bulletins pour vérifier que je travaillais, parce qu'il partait toujours d'un principe. Il me disait, des champions, il n'y en a pas beaucoup. Des champions qui vont gagner leur vie avec la boxe, il y en a très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc, il était exigeant avec moi pour que je puisse réussir mes études. Et ça, je crois que ça montrait la grandeur de ce monsieur.
Et vous parliez de comment votre semaine était rythmée. D'abord les études, les cours au collège et puis au lycée, les devoirs, c'était sacré et puis c'était systématique, et après vous allez à l'entraînement.
Oui, ma mère qui est décédée il y a très peu de temps, ma mère était très exigeante. Elle voulait absolument que l'on réussisse nos études. D'ailleurs, je raconte une anecdote. Elle nous avait dit un jour, si j'avais pu faire des études, je serais devenue la meilleure des avocates. Voilà. Et je suis absolument persuadé que c'est vrai, parce que voilà, ma mère avait quand même regretté de n'avoir jamais été à l'école. Elle nous disait tout le temps la chance qu'on avait d'avoir pu apprendre à lire et écrire, et la chance qu'on avait de pouvoir à l'avenir choisir le métier qu'on voulait choisir. Et ça, c'était important. Et elle était aussi très enclin à inciter mes sœurs à faire des études pour réussir, justement, pour sortir justement du carcan dans lequel entre guillemets la tradition allait les enfermer.
Comme Charlene Galls, on vivait dans une petite maison. Elle était pas dans la prairie, mais près d'une prison. La cité d'à côté, chacun veut être un parrain. Ce parrain, et c'est pas pire politicien. Bastion délinquant, col blanc descendant. Pour certains de collabos, magouille avec ton argent. Donc mafieux pour mafieux, j'ai choisi le camp. C'est ceux qui font manger la famille, c'est les grands. Qui font ce qu'il y a à faire pour éloigner la misère. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas dans leur viscère. Quand la vie te serre la ceinture, t'as rien, t'as le néant. Qui te serre à gémant comme un serveur fainéant. Viscère en ayant aucun autre choix. Moi je le dis, si c'est en aucun aura ma voix. Si c'est en vain que je l'élève, et ben chaque fois qu'elle soit encore plus saillante que katana. Ma petite maison dans la cité.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons des questions sociales, sociologisantes, de cette analyse-là qui fait que des jeunes gens, des garçons, des filles ont basculé ou se sont réfugiés en tout cas dans le radicalisme religieux, dans l'islamisme radical. Pour une des explications, entre autres mais pas uniquement, le rejet, le racisme, et voir comment pouvoir s'en sortir. Et c'est avec Abdelkader Elan, le romancier, écrivain, et notamment à travers son ouvrage « En pleine face », qui est un roman autobiographique, et qui a été élu, primé, en tout cas choisi par les professeurs de lettres dans les établissements scolaires pour parler de la question de l'identité. Je répète que cette identité se trouve être puisée totalement dans des considérations religieuses islamiques. Pour cette dernière partie, Abdelkader Elan, comment voyez-vous donc la sortie de crise? Parce que maintenant que la religion ou même une forme de religiosité aliénante a pris le dessus, il y a moyen de pouvoir s'en sortir ou ça va rester encore un moment?
Je pense que ce qui est aujourd'hui important, c'est d'enseigner la religion. Je crois qu'à mon avis, même à l'école, je pense que c'est extrêmement important. Je prends toujours un exemple, j'en parlais tout à l'heure, quand un copain de la cité nous avait dit qu'on ne devait pas rentrer dans une église, et lorsqu'un professeur nous avait emmené visiter une église, on était resté à l'extérieur. Ce qui est dommage aussi, c'est que ce professeur n'ait pas su nous donner justement les clés pour pouvoir nous inciter à en entrer. Et je pense qu'aujourd'hui, la base, c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'apprendre leur religion, quelle qu'elle soit, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple très très simple. Je suis directeur de mission locale. Très récemment, je suis intervenu dans une école de la deuxième chance parce que des jeunes avaient refusé de manger dans un flunch. Ils voulaient aller manger dans un kebab. Ils avaient refusé de rentrer dans un flunch parce que ce n'était pas halal. Donc je suis intervenu auprès de ce groupe et en posant simplement la question, en disant « vous êtes musulmans ?» parce qu'ils se revendiquaient très fermement musulmans avec autorité. Et je leur ai demandé tout simplement s'ils étaient capables de me citer les cinq piliers de l'islam. Et ils ont été incapables. Il y en a même un qui m'a dit que ne pas manger du porc, c'était un pilier de l'islam. C'est dire le chemin énorme qui est le nôtre pour pouvoir justement permettre à ces jeunes, lorsqu'ils se revendiquent d'une religion, bien évidemment, de connaître cette religion. C'est, à mon sens, aujourd'hui, la grande faille que l'on a, en tout cas pour ce qui concerne la religion musulmane, c'est la méconnaissance de la religion.
Alors, une méconnaissance crasse, une méconnaissance grave, et qui fait dire, voire les pousse à agir d'une manière, nous avons dit, antinomique avec même l'enseignement de cette tradition sur les valeurs d'accueil, de générosité, d'hospitalité, de solidarité, mais ils comprennent cela uniquement à l'intérieur du groupe pour s'affirmer contre le reste hostile, contre les autres. Et cette idée d'une appartenance supranationale qui serait celle de l'islam est surfaite.
Bien sûr, tout à fait. La difficulté, c'est que ces jeunes pensent véritablement être de très bons musulmans. Ils le revendiquent, ils l'affirment, et malheureusement, comme souvent, ils desserrent cette religion par leur comportement. Moi, ce qui m'avait frappé aussi, c'était lorsque j'ose. Bien évidemment, lorsque j'ose poser des questions sur la religion, hein, parce que parfois je dis aux jeunes « si Dieu existe ». Et quand je dis ça, j'ai l'impression de blasphémer. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis un peu provocateur, mais c'est aussi aller chercher justement, aller les questionner. Et je crois que la plus belle des libertés qu'on peut donner à notre jeunesse, c'est justement de leur enseigner l'esprit critique, leur permettre justement de pouvoir s'interroger sur leur religion, ça c'est important, même si ça reste quand même encore aujourd'hui difficile, mais de pouvoir s'interroger sur la véracité de ce qu'on peut leur raconter, toujours remettre en doute ce qu'on est amené à leur raconter. Et je crois que ça c'est la base de aujourd'hui, en tout cas c'est la base de l'enseignement que j'essaie d'apporter aux jeunes que je rencontre.
Oui, aiguiser l'entendement, filtrer par le tamis de la raison. Pardon pour le terme, les balivernes que peuvent leur raconter certains imams autoproclamés, eux-mêmes ignares. Pour revenir à l'histoire de l'église tout à l'heure, c'est vrai que dans certains cas, il y a des jeunes qui n'ont pu pénétrer dans une église que suite à l'assassinat du père Jacques Hamel. Avant, ils n'étaient même pas ni dans une logique d'y aller. Et vous dites que lors d'une dictée, un de vos professeurs de français a fait une dictée dans laquelle il y a mot église, et vous-même et d'autres ne vouliez pas l'écrire. Et ce qui est grotesque, c'est que le professeur a accepté de passer sur ce blanc-là où on ne pouvait pas écrire église, que rien ne justifie, mais bon, ça a été accepté.
C'est ça, c'est-à-dire que le grotesque peut prendre des formes diverses, hein, et malheureusement, alors la difficulté aussi hein, qu'ont les professeurs, c'est aussi la méconnaissance de la religion, le fait aujourd'hui d'être soupçonné de racisme ou d'islamophobie, ça fait qu'à un moment donné, ça fait en sorte qu'ils n'osent pas apporter une critique à des demandes, hein. Et ça, c'est malheureusement la difficulté qu'on vit dans notre pays. On n'ose plus critiquer, on n'ose plus s'affirmer, on n'ose plus dire, on n'ose plus aussi imposer les lois de la République. Hein. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On critique la laïcité, on critique la République, on critique beaucoup de choses à travers le champ de la religion. Et ça, je crois qu'à un moment donné, à ce niveau-là, je pense que la tolérance zéro est de mise. Parce qu'on ne peut pas tout accepter. Moi, j'ai pris, en tout cas, fait des causes pour justement défendre la liberté de culte. Je crois que ça, c'est extrêmement important. On a le droit de croire, on a le droit de pas croire. Je défends beaucoup les homosexuels. C'est-à-dire, j'ai eu des accrochages justement sur le fait que des homosexuels qui sont musulmans et qui se revendiquent musulmans souvent sont malheureusement attaqués. Je prends fait et cause pour ces personnes parce que je réfute et je refuse le rejet. Voilà. Et pour moi, c'est extrêmement important. Je crois que je n'aime pas le mot tolérance. Parce que
là, il y a des maisons pour cela, disait Claudel, ouais. Reprenant la parole méditant de Charles Péguy. Oui. On ne tolère pas autrui comme l'organisme tolérerait des médicaments pris par inadvertance.
Exactement. Moi, je suis plus dans l'acceptation. L'acceptation, c'est plus fort et c'est un engagement. Et moi, j'accepte l'autre, quelle que soit sa différence. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et je crois que si on avait tous cette philosophie de vie, les choses seraient beaucoup plus simples pour nous dans la vie de tous les jours, quoi, en fait. Je crois que c'est extrêmement important, l'acceptation de l'autre.
Oui, l'autorité est à la République, la force est à la loi, sinon ça serait la loi de la force et ce sera la jungle. Et peut-être pour cette toute dernière partie de notre entretien, Abdelkader Elan, vous déplorez, et nous sommes nombreux aussi à consonner et à souscrire à ce que vous dites. Comment revenir à une pratique apaisée, ouverte, d'une tradition religieuse comme celle de la génération de votre père, de celle de vos parents, qui est encore une fois celle de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, et qu'on a basculé à cette crispation et qui malheureusement trouve comme étendard la question religieuse islamique pour être dans une hostilité et dans le combat, y compris contre les valeurs de la République.
Oui, je crois que il y a une phrase qui, peut-être que je l'ai dit mal, mais c'était nulle contrainte en islam. Voilà, je crois
nulle contrainte en la religion. La voie droite se distingue clairement de l'erreur. Voilà. C'est le fameux verset 256 de la sourate 2. Voilà. Mais par moments, on l'extrait hors contexte, oui, mais ça c'est une autre histoire.
Ouais. Et je crois qu'en fait, pour vivre sa religion, je crois qu'il faut la vivre d'abord pleinement. Je crois que ça c'est d'abord extrêmement important. Et puis surtout, vous savez, moi, ce n'est que mon avis. Hein. Moi, je suis pas dogmatique. Je suis plus dans la pratique, je suis plus dans la spiritualité que dans le dogme. Malheureusement, aujourd'hui, on nous oblige entre guillemets à être plus dans le dogme que plutôt dans la spiritualité. Moi, je le refuse, hein, et ma spiritualité est plus forte. Je pense qu'elle est, elle fait partie aussi de mes attitudes et ma manière de vivre le quotidien. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Pour reprendre l'expression d'un ami, aujourd'hui, on nous parle de faut pas faire ci, faut pas faire ça. Quand j'entends les gens me parler, me dire, mais tu sais, il faut faire la prière, il faut faire ci. Je leur dis tout le temps, j'ai l'impression que pour vous, Dieu, on va me traiter de faire du blasphème, mais c'est pas grave. Dieu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un grand barbecue et que son kiff c'est de brûler des gens. Et si je rentre dans les toilettes du pied droit et pas du pied gauche, si je dis pas bismillah avant de manger, j'ai l'impression que je risque l'enfer à tout moment. Je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de ça et avoir une pratique de raison. Je crois que c'est extrêmement important. Si on a une pratique liée à la raison, on évite toute difficulté, on évite tout problème. La religion, c'est quelque chose de facile. Je crois que de croire en Dieu, c'est d'abord aussi croire aux hommes, croire à la générosité, croire à des valeurs qui sont vraiment toutes simples, hein, mais ne pas être dans le jugement et surtout accepter l'autre, comme je le disais tout à l'heure, comme il est, et accepter l'autre dans sa différence. À partir du moment où j'accepte qu'un musulman n'ait pas les mêmes pratiques que moi, voilà, j'attends de sa part qu'il ait le même raisonnement que moi, à savoir m'accepter.
Alors merci infiniment Abdelkader Elhane. C'est vrai que pour des islamistes, ce n'est pas tant leur relation au divin qui importe, mais c'est la relation d'autrui à Dieu qui les intéresse et ici mêle. Merci de nous avoir édifié par votre propre vie, une trajectoire de vie riche et qui explique beaucoup de nos ennuis, je le dis pour les citoyens français, musulmans ou non musulmans. Vous nous avez donné un éclairage. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son était assurée aujourd'hui par Bernard Laniel et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
Tous les gosses du quartier qui fait d'être dans un papa. Ça faisait la différence, ils traînaient pas dans les caves. Ça guait pas sur les trams, tapait pas dans le grave. Tapait pas sur des crânes, car c'est cool, genre grave. Ouais, cool, si cool que les traites à payer de cool. C'est si cool qu'un si cool sur ta tête en cagoule. Ça te foutrait même pas les boules.
Ça te fout même pas les boules.
Tu payes pour tes gosses, c'est du gazon le week-end. Tu payes ton boss, c'est travailler à la chaîne. Travailler à la chaîne de vie, chaîne de société. Frigo limité, Noël, t'es déjà surendetté.
Jusqu'au cou,
pense-moi bien que toi, tu fais pénitence. Tu sais comme moi que comme consolation, c'est pas immense.
On est tous du secteur tertiaire, des prolétaires. On te fait croire que tu vends du lait, à côté on prend ta terre.
Le bénef, à ceux qui ont vraiment une maison dans la prairie. Y'a qu'après leur mort, tu sais combien ils étaient pourris.
Ma petite maison, dans la cité. Ma petite maison dans la cité.
Ils ont payé en primaire.
Dame, dis la dame.
Et du lest.
Comme Charline. vivait dans une petite maison. La nôtre avait une petite barrière en bois marron. Celle du voisin avait une petite barrière en bois marron. Le voisin du voisin avait
du bois marron.
On avait que deux chambres pour trois, c'était très ta vie. Mais bon, on avait un escalier en bois marron. Je préfère la révolte, courir libre comme un aigle marron. Mais c'était pas pour la génération de nos darons. Partir d'Artaron, prenez l'avion direction métropole, la France, Paris, Provençon. Quitte le pays, va chercher l'argent là où il fructifie. C'est là qu'on dit bye bye Lille.
Ma petite maison dans la cité. Dylan, dame,
avec du lest.
Ma petite maison dans la cité.
Ils ont payé en primé.
Dame, Dylan, dame,
avec du lest.
Ma petite maison dans la cité.
Entre le bon et le mauvais.
Dame, Dylan, dame,
avec du lest.
Ma petite maison dans la cité.
Ils ont payé en primé.
Dame, Dylan, dame.
Let you let E-Ride.